Bonsoir, rebonsoir plutôt. Donc dans cette deuxième partie, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons tirer le portrait de deux personnages de romans qui reviennent depuis plein de romans. Deux personnages méditerranéens d'ailleurs. Et le premier, il s'appelle Petra Delicado. Alors Petra Delicado, on va l'appeler Petra, ce sera plus simple. C'est le personnage principal d'Alicia Jiménez Bartlett, une Barcelonaise, hein, c'est ça, elle est catalane. Et ce sont des romans qui sont traduits, régulièrement traduits et publiés chez Rivage Noir. Donc on en parle aujourd'hui puisque vient de sortir ses cinquièmes aventures traduites qui s'appelle Un bateau plein de riz. Oui, traduite de. Ça s'appelle donc Un bateau plein de riz. La traduction de celui-ci est d'Olivia Hamilton et Johanna Danzenberg. On l'a découvert, Petra, dans le premier, qui est traduit en 2000. Donc une dizaine d'années, une petite dizaine d'années. Ce livre s'appelait Rite de mort. Et on avait déjà remarqué cette Barcelonaise haute en couleurs et surtout le tandem qu'elle forme avec son adjoint, Fermín Garzón. Oui, parce que j'ai peut-être oublié quand même de dire l'essentiel, c'est que Petra est un flic et qu'elle est inspecteur-chef, alors que Fermín n'est que inspecteur adjoint. Et donc, c'est déjà ça l'originalité du duo, c'est elle la chef. Ça change un peu. Je viens de parler, par exemple, du flic d'Arnald Dur, Indridason, Erlend Dur. Lui, il forme plutôt un tandem avec sa subordonnée. Le chef est un mec, en dessous, c'est la fille. C'est comme Yann Rankine, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Pareil, la fille est la subordonnée du commissaire.
C'est dans l'ordre des choses.
Oui, bien sûr. Ça m'étonnait que je n'aie pas un petit commentaire comme ça. Et encore une fois, quand j'ai voulu parler de Petra Delicado, ben c'était pas possible d'en parler seul. Il fallait parler de Garzón. Tant leur duo fonctionne, aussi bien pour les enquêtes d'ailleurs, que pour s'épauler l'un l'autre dans les moments délicats de la vie. Pour la situer, Petra a une petite cinquantaine, elle est divorcée deux fois, et elle a une vision de l'existence à la fois très décalée et très cynique. Du coup, elle a un humour décapant, aussi bien pour se moquer des autres, évidemment à commencer par son adjoint Fermín, mais aussi, elle sait très bien se moquer d'elle-même. Elle est plutôt anticonformiste, farouchement indépendante. Ça n'empêche pas, en particulier dans ce dernier livre, d'avoir très peur de vieillir seule. Dans celui-là, Un bateau plein de riz, elle s'interroge souvent, et elle s'interroge aussi souvent sur sa féminité, et puis sur la féminité en général. Et ça donne plutôt des passages drôlatiques, tant sa vision déroge souvent des normes étriquées de notre société. C'est donc pas facile pour les hommes de l'aborder ou même de travailler avec elle. Et à vrai dire, c'est pareil pour les filles. Dans ce dernier roman, Garzón dit d'elle « La route qui mène à Delicado est pavée d'embûches, jeune fille. » Il s'adresse à quelqu'un qui vient de rejoindre leur équipe, une jeune adjointe. D'après ce que je viens de décrire, elle paraît plutôt hérissée de piquants et acariâtre. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, elle est toujours pleine d'empathie pour les humbles, les malmenés de la vie. Et elle garde tout son venin, elle en a une bonne réserve, je peux vous le dire, pour les pauvres d'esprit. Et puis, on va dire, allez, truc un petit peu péjoratif, un petit peu à l'emporte-pièce, mais bon, les petits bourges malfaisants, quoi. Surtout dans celui-là, ils ne lui plaisent pas. Et au contraire, donc, elle éprouve beaucoup de compassion pour les victimes. Et toutes ces contradictions la rendent très, très attachante parce que ça en fait un personnage plein de chair et que finalement, elle est plutôt proche de nous. Garzón, lui, c'est un peu l'ombre dans la lumière de l'inspectrice.
Garzón.
Ah oui, mais alors moi, avec l'espagnol, ça ne va pas du tout. Donc, appelons-le Fermín.
Fermín.
L'adjoint. Hein, l'adjoint, ça va très bien. Donc, lui, il est veuf, avec des valeurs bien traditionnelles, plutôt rochaud. Ronchon, pardon. Je le vois bien habillé avec un petit gilet, vous savez, un petit gilet avec des rayures, là, tricoté par moment.
Ceci dit, d'être, ça l'empêche pas de faire quelquefois des rencontres.
Ah ben oui, hein,
certains épisodes. Ben, oui.
Il aime beaucoup Delicado, mais ne la comprend pas toujours. On a cru un moment que ça pencherait vers une amitié amoureuse, mais en fait, non. D'ailleurs, dans le dernier, Un bateau plein de riz, Petra a une liaison torride avec un psychiatre, ce que lui fait d'ailleurs dire « Épouser un psychiatre, c'est comme traverser l'Atlantique avec un prof de natation. Ça peut toujours servir. » Bref, le duo fonctionne à merveille. Et même, de mieux en mieux, un peu comme au cinéma, En fait, comme dans certaines séries où à chaque fois on a une amitié entre les deux personnages principaux et on se demande toujours si ça va finir au lit ou pas. Ici, ça donne des dialogues savoureux, percutants. Et d'ailleurs, c'est une des grandes qualités narratives des romans d'Alicia Jiménez-Bartlett. Ça donne aussi un rythme à des intrigues qui avancent souvent, non pas par une découverte spectaculaire, une scène à l'esbrouf, mais plutôt, souvent, l'intrigue avance par un échange plus ou moins vif entre les deux compères. Alors, juste pour situer ce dernier roman, Un bateau plein de riz, vous allez avoir plusieurs fois le titre, c'est chez Rivage Noir, comme je l'ai dit, et dans celui-ci, le tandem va devoir résoudre l'assassinat de mendiants. Au départ, évidemment, sans aucun mobile, sans aucune idée, et ils vont errer plus ou moins entre des parcs, des endroits pour trouver dans des sociétés de bienfaisance pour essayer de trouver les coupables de ces meurtres totalement sordides. Et évidemment, comme je vous le disais, comme l'inspectrice est pleine de compassion, elle, c'est pas parce que c'est des mendiants, c'est pas parce que c'est des SDF dont personne réclame le corps pratiquement. Elle veut au contraire, elle se fait vraiment une haute idée de sa fonction et elle veut absolument retrouver les assassins de ces mendiants à qui personne ne pense. Au moins, il y a quelqu'un qui pense à eux. C'est celle qui va résoudre cette enquête.
Surtout qu'ils sont plutôt sauvagement assassinés.
Voilà, alors Petra, quand elle en a ras-le-bol, elle rentre chez elle, toute seule. Quand elle rentre accompagnée, elle n'en a pas ras-le-bol. Mais elle s'installe dans son sofa, elle se paye un bon whisky, voire un rhum, me semble-t-il, de temps en temps, et elle s'écoute du Chopin. Alors franchement, pour nous, Chopin, c'était pas possible. Ça, c'est un peu rédhibitoire. Donc, on a quand même choisi de la musique classique pour couper entre les deux personnages. Donc Jacques, on a choisi
un morceau de Jean-Sébastien Bach, assez connu parce qu'il a servi de pub à une marque de je sais pas trop quoi. C'est le prélude de la suite numéro 1 pour violoncelle seule en do majeur, mais là il est interprété, plutôt que d'interpréter au violoncelle, il est interprété à la viole de gambe par un Italien tout à fait excellent qui s'appelle Paolo Pandolfo. Thank you.
Voilà, c'est rare que nous passions un morceau de musique classique, mais de temps en temps, ça fait du bien. Avant de laisser la parole à Jacques, je voudrais quand même citer les 5 titres où nous retrouvons Petra Delicato, très rapidement, Rite de mort, Le jour des chiens, Les messagers de la nuit, Meurtre sur papier, Des serpents au paradis, et le dernier qui vient de sortir, qui fait donc le 6e en fait, je sais vraiment pas compter, il s'appelle Un bateau plein de riz. Les 4 premiers ont été traduits par Marianne Milon, l'avant-dernier Alice Deon, et comme je l'ai dit, celui-là, Olivia Milton et Johanna Dalsenberg. Jacques, on traverse la Méditerranée pour arriver en Sicile.
Voilà, donc Corinne vous a parlé d'une femme, une héroïne récurrente, à double titre d'ailleurs, puisque c'est une femme, donc.
Drôle, le macho de service.
Moi, je vais vous parler d'un mec, un vrai, Salvo Montalbano. Salvo Montalbano, il est commissaire dans la petite ville de Vigata en Sicile, une ville imaginaire, mais qui est basée sur celle de Porto Empedocle, au sud de l'île. C'est un habitué de l'émission, c'est le personnage principal des romans de Andrea Camilleri, qui paraissent en fleuve noir en grand format et qui sont repris dans la collection Pocket en poche. Salvo, il approche de la soixantaine. Il se sent vieux, mais en fait, on n'est pas vieux quand on a 50 ans. C'est du moins 59 ans. C'est ce que dit l'auteur. C'est pas tellement l'âge, en fait, qui le rend vieux, c'est la fatigue. C'est la fatigue qui l'atteint, une fatigue physique, mais aussi une fatigue morale. Salvo Montalbano, en fait, il en a marre, pas tellement de son boulot, mais que dans son boulot, il a affaire à des imbéciles. Pas toujours, pas seulement ses adjoints, mais aussi les gens qui traquent, qui font souvent preuve d'une stupidité, même s'ils sont la plupart du temps des gros pourris. Une autre des caractéristiques de Salvo Montalbano, c'est qu'il est gourmand. C'est presque sa principale caractéristique.
Ça donne d'ailleurs des passages absolument magnifiques, des scènes de bouffe magnifiques dans ses livres.
Il est capable de manger un repas prévu pour 3, il peut être boulimique, et il a aussi une caractéristique, c'est qu'il ne supporte absolument pas qu'on lui parle pendant qu'il mange.
Je ne pourrais jamais manger avec lui, ce n'est pas possible.
Et en plus, ses repas, ça lui permet souvent de se détendre, de faire le point, et des fois même, ça lui donne une idée sur l'affaire, un indice qu'il n'avait pas vu ou mal interprété.
Alors, pour t'interrompre, excuse-moi, je dois dire que ça donne, lire les passages de bouffe avec Montalbano, ça donne immédiatement envie de se ruer sur un livre de cuisine sicilienne ou de partir en Sicile.
Voilà, il ferait adorer le poisson, hein, même à ceux qui ne pourraient absolument pas en manger. Quand il mange avec délice,
c'est 8 merlans en colère.
Un autre typique, très typique de Montalbano, c'est qu'il est gourmand. Non, pardon, c'est gourmand, je l'ai dit, qu'il est coléreux. Il ne supporte pas la bêtise et ça l'énerve.
Et Dieu sait s'il est environné de bêtises.
Et il ne supporte pas l'administration, ni la hiérarchie qui l'emmerde carrément, surtout la sienne, la directe, si je peux me permettre l'expression dans une radio aussi sélecte. Il s'emporte très très rapidement, mais jamais très longtemps, parce qu'en fait, bon, il n'a aucune méchanceté. Mais il y a des choses qui l'énervent, il ne peut pas passer dessus. Une autre des caractéristiques, si j'ose dire, du commissaire, c'est Livia. Livia, c'est son éternelle fiancée génoise.
Le macho encore frappé.
Sa copine, c'est sa copine, sa compagne du Nord. Il aime bien être avec elle. Mais il est presque toujours content quand elle s'en va, même quand c'est en claquant la porte.
Tu vois vraiment que tu parles d'un couple normal. Voilà.
Du coup, ils ont un peu de mal à construire un couple. Ils n'ont pas d'enfants. D'ailleurs, Salvo n'en veut pas vraiment. Qui voudrait faire des enfants dans le monde où on vit, où on peut avoir Berlusconi comme chef de gouvernement, où il y a la mafia à tous les coins de rue, la drogue et tout le reste.
Ça, c'est carrément Camilleri qui le dit à plusieurs reprises.
Qui le met soit dans ses interviews, soit dans la bouche de Montalbano. Mais le commissaire Montalbano, ce brave Salvo, ne serait rien sans la bande du commissariat. Alors le premier, c'est son adjoint direct, Mimi Augello. Ils s'aiment bien tous les deux, ils se respectent, mais ils se craignent aussi, parce que Mimi, c'est un petit peu un concurrent, pratiquement un rival.
D'ailleurs, leur relation a énormément évolué au fur et à mesure des aventures. Hein. C'est un peu comme le duo que je décrivais tout à l'heure.
Il y a Fazio. Alors lui, c'est le fidèle, il est là tout le temps. On peut compter sur lui dans les moments durs, ça. Mais il n'est pas très caractéristique, mais il est, par contre, c'est
un
de la bande, et il est toujours là. Et il y a surtout, alors là, on vous en parle à chaque fois, mais il y a Catarella.
Qui
est surnommé Catarella. L'inénarrable Catarella, même, on peut le dire comme ça. Celui, au début, en fait, il faisait que des conneries dans ce commissariat. Il ne savait pas trop où le carrer, casé,
moule casé, oui, je préfère.
C'est pas trop le casé, donc ils ont fini par le mettre au standard, enfin un peu n'importe, partout. Mais en fait, il s'est trouvé à un moment, dans un des épisodes, un génie un peu improbable pour l'informatique. Et c'est devenu pratiquement un hacker. Et donc, il est devenu en même temps une des pièces maîtresses des enquêtes du commissaire Montalbano. Mais c'est souvent, et c'est toujours même, une grande source d'énervement, on en parlait tout à l'heure qu'il était colérique, de Salvo Montalbano, mais c'est aussi évidemment pour le lecteur de grands éclats de rire. Le commissaire a une autre compagne en plus de Livia, mais c'est une compagne qu'il partage avec toute la Sicile, c'est la mafia. Cette mafia est omniprésente dans tous les romans et pourtant toujours discrète. D'ailleurs, la mafia...
C'est, oui, c'est jamais le sujet principal.
Voilà.
Hein.
La mafia est souvent discrète en Sicile, sauf dans...
Sauf pour Gomorra. Menacer l'auteur de Gomorra.
Gomorra, c'est, évidemment, on n'est pas du tout dans Gomorra de Saviano, là. Et dans chaque roman, elle a quelques implications. Entre autres, par exemple, la fameuse protection qu'elle assure à toutes les boutiques, etc. Donc là, il vient de sortir, là, pratiquement, je crois bien, 14e enquête de Montalbano, qui s'appelle « Un été ardent », qui vient de paraître donc au Fleuve Noir. En...
Très belle couverture, d'ailleurs.
Très belle couverture, très, très bleue.
Un peu un loustal, je trouve.
Ouais. Et donc, cet été ardent, donc ça se passe en été. Et la première partie du roman est quasiment irrésistible. Y a des amis de Livia qui ont loué une maison, pas très loin de Vigata. Et il leur arrive toutes les catastrophes, toutes les plaies de la Sicile, comme dit Camilleri. D'abord des araignées, ensuite des cafards, puis des rats et des fourmis qui, tour à tour, envahissent la maison. Une maison qu'ils ont louée, qui était une maison pas habitée depuis longtemps, ce qui explique peut-être ça. Jusqu'au moment où, en plus de toutes ces calamités, merci, ils découvrent le cadavre...
Enfin, tu peux dire emmerdement aussi.
Voilà,
hein.
Ils découvrent le cadavre d'une jeune fille. Et là, évidemment, l'ambiance change un petit peu, parce que Montalbano va devoir enquêter sur ce meurtre qui semble dater de quelque temps. Voilà, il reste un élément, là je vous ai un peu raconté le début pour vous donner envie de le lire. Il reste un élément important des romans de Montalbano.
Oui, c'est la langue utilisée par Camilleri.
C'est vrai qu'on le rappelle à chaque fois. Il y a plusieurs niveaux de langue entre l'italien standard, le sicilien
et
le talien, qui est une espèce de mélange de langues.
Qu'utilise Cattarella.
Qu'utilise essentiellement Cattarella. Et donc il y a des formules aussi. Par exemple, il met le verbe à la fin de la phrase, quand il se présente, il dit « Montalbano, je suis », au lieu de dire « je suis Montalbano », etc., qui donne tout de suite...
Et c'est ce qui a fait le gros succès des livres de Camilleri en Sicile. Enfin,
dans toute l'Italie.
Dans toute l'Italie, et ce qui est d'ailleurs aussi surprenant, parce que c'est vrai que certains reprochent ce qu'on estime être l'excellente traduction de Cadrupani, et je sais qu'en France, c'est assez discuté, mais il faut savoir que comme on trouve ça étrange, les Italiens trouvent aussi... les registres de langue étrange parce que la plupart ne comprennent absolument pas ce que disent certains des personnages de Camilleri. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a plusieurs des livres qui sont toujours au top 50, au top 10 des ventes en Italie. On rappelle le titre du dernier ?
Alors, le titre du dernier s'appelle « Un été ardent ». Il est paru au Fleuve Noir. Il est traduit, donc, comme chacun des enquêtes de Montalbano, par Serge Cadrupani, il s'est fait aider aussi cette fois-ci de Maruzza Loria.
Voilà, et vous pouvez piocher dans toutes les aventures, dans l'ordre, dans le désordre.
Voilà,
c'est
oui.
Excellent. Et ça...
Je ne vais pas citer les 14, je vous conseille d'aller chez votre libraire ou sur votre site de vente en ligne. Vous...
Voilà, et ça donne un bon rayon de soleil dans cet hiver qui s'éternise. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée et à la prochaine.
Bonsoir.
Agora vous donne l'heure. 19h sur Agora FM, bon appétit à tous.
De l'info locale à l'info internationale.